Emmanuel Bauve, Le retour de l'enfant. Dans le train qui me conduisait vers le village que j'avais quitté depuis 5 ans, tout était silencieux. Il faisait une chaleur étouffante en cet après-midi de juillet. C'étaient les mêmes rayons qui nous suivaient, sans quoi je me fus étonné, à cause du souvenir des minutes passées, immobile, une loupe à la main, à roussir de feuilles de papier, que le soleil eut, au travers des glaces, la même force que si le convoi avait été arrêté. Je tirai les rideaux bleus, de ce bleu des lampes de drapeau. Il n'était que 3 heures. Et que le temps ne s'écoula pas plus vite, alors que nous dépassions, à travers la campagne, le pas de l'homme, me déconcertait. Par moments, aux endroits où les rails étaient plus lisses, il semblait que nous n'avancions plus. Seul l'anneau de la sonnette d'alarme tremblait, comme si le coup qu'il avait mis en mouvement avait été si fort qu'il eût pu déclencher un balancement de plusieurs heures. À cause d'une crainte instinctive, j'évitais de poser les pieds sur les chaufferettes. Elles étaient peut-être devenues brûlantes depuis que tout à l'heure je m'étais baissé pour les toucher avec le dehors de mes doigts, parce qu'il est plus sensible. Je sentais qu'il suffisait d'un geste de quelques contrôleurs dans un wagon de tête ou de queue pour qu'elles eussent fonctionné dans l'intervalle. Ce geste, je redoutais qu'il n'eût été accompli par inattention, en fumant une cigarette, en lisant un journal. Par une glace, maintenue à demi baissée par une lanière d'étoffe, puis à cause d'une décision prise en 1917, alors que les soldats coupaient les courroies de cuir pour en faire des ceinturons, le faux vent de la vitesse pénétrait dans le compartiment, mêlant aux cheveux la poussière de charbon. Des insectes, des champs tombaient parfois sur les banquettes, glissaient entre les coussins comme dans un gouffre, ce qui m'amenait à m'apitoyer sur eux, comme sur le vermisseau des salades emportées par l'eau d'un robinet vers de sombres égouts. Les tunnels se présentaient par séries, comme tout dans la vie, comme les coups heureux, comme la malchance. N'en connaissant pas la longueur, j'hésitais alors à lever la glace. La fumée nous enveloppait, et longtemps après, son goût me restait sur la langue. Mon voisin dormait. Il avait par instant des gestes d'homme éveillé, bien qu'il gardât les yeux fermés. Il tirait un mouchoir de sa poche, en dormant, déplaçait la tête, se mouchait en dormant. Pour trouver une position commode, une volonté lointaine commandait à ses membres, mais défaillait quand il s'agissait de l'ordre et des convenances. Dans une petite gare, le train s'arrêta 3 minutes importantes, qui, bien qu'elles fussent prévues, me parurent devoir retarder mon arrivée de 3 minutes. Nous repartîmes alors que les voyageurs qui étaient descendus du train avaient déjà regagné la route. Ils nous regardèrent passer, les bagages à la main. Du haut d'un viaduc, plus près du seul nuage pointu à l'avant pour fendre l'air, qui nous suivait, nous aperçûmes des vallons, des coteaux. Au loin, des clochers se dressaient, les points cardinaux au petit bonheur. Les automobiles, sur une route nationale, semblaient suivre un chemin plus long. C'était une campagne habitée que nous traversions, où les champs succédaient aux villages. Une campagne que sillonnaient de petits ruisseaux barrés de passerelles de bois sur lesquels des hommes pêchaient. C'était la campagne de ma jeunesse, des gravures pour apprendre l'allemand où tout ce dont se sert le paysan est à sa place, sans nécessité. Il y avait des meules, des charrettes, des chaumières, des fourches de chevaux, s'étirant une charrue, des troupeaux. Les vaches boutaient, chassant les mouches de leur queue. Des poulains s'arrêtaient devant les haies, ruaient sans danger pour personne dans les vastes pâturages. Une vieille femme portait un fagot pour que ce mot, dans la mémoire des enfants, ne se retint plus facilement. Ces campagnes où nous passions, chacun en esprit au départ ou à l'arrivée, chacun plein d'adieux ou d'attentes, ces campagnes où jamais nous n'avions autrement que sur les rails, que nous suivions à moins d'un hasard impossible, et qui vivaient pourtant heureuses, me rendaient mélancolique. Un journal que l'on ne s'était pas donné la peine de replier, que l'on avait jeté plusieurs fois comme pour l'abandonner, traînait sur une banquette, prêt à glisser. Je pris ce journal du matin, doublement vieilli par l'heure et l'éloignement, et tâchais d'y trouver des dépêches venues d'ici, ayant effectué le voyage inutile de Paris, puisque je les rapportais à cause d'un penchant de chercher en tout quelque chose de grotesque. Les gens qui travaillaient dans les champs n'avaient pas encore lu ce journal. D'être mieux renseigné qu'eux, d'être emporté à la même vitesse devant les paysages où seul je me serais arrêté, de voir une vie champêtre aussi intime que celle des maisons, m'incitait à rêver, les yeux mi-clos, les jambes pas croisées pour qu'aucune fatigue ne vînt me rappeler à la réalité. Des voyageurs passaient dans le couloir, en sens contraire de la marche, craintifs dans ses accordéons, gagnant quelques pas sur le sol, qu'en perdant mille dans la campagne. Nous n'avions pas le temps de voir l'heure aux gares. Un train que nous croisâmes me causa une frayeur. Je fermai les yeux. Je revis Paris que je quittais pour toujours après y avoir été malheureux. Je laissai les camarades que je n'avais pas prévenus, malogeuses, car je ne peux me séparer des gens les plus insignifiants pour toujours. Je laissai une jeune fille, Fernande, que j'aimais, qui, 9 heures après mon départ, me manquait déjà, qui m'apparaissait pleine de qualités comme après une longue absence. Je laissais un bureau sombre, dont une seule fenêtre donnait sur la rue Drouot, les 5 autres sur une cour. La fenêtre de la rue Drouot n'était pas pour moi. Il m'aurait fallu attendre le départ de 7 employés pour devenir le plus ancien et pour m'en approcher. Je laissais des habitudes, des manies, nées de la pauvreté, des réveils brusques dans le demi-jour, la crainte que l'on ne me rendît pas ce que je prêtais, les mauvais restaurants, l'indigence des fins de mois, chaque mois plus long d'un jour, ce qui m'eût conduit automatiquement à la déchéance. Je laissais une vie réglée, si bien réglée que je m'étonnais maintenant qu'elle n'existât plus. Celui qui prendrait ma chambre ne se lèverait pas à la même heure que moi. Je n'achèterais plus mes petits pains à la boulangerie voisine. On ne me verrait plus. Dans un mois, après le temps normal d'une maladie ou d'un congé, on penserait peut-être un instant à moi, mais ce serait fini. Et je laissais aussi des choses, de vieilles choses que j'avais cru utiles, dont je n'avais jamais voulu me débarrasser, même quand je changeais de chambre. Un pantalon, une boîte de fer, un flacon de parfum vide, mais de verre épais, des photographies, des chemises usées, des lettres et des enveloppes, parce que je ne peux pas déchirer une lettre, parce que je garde toujours les enveloppes comme si, sans elles, les lettres n'eussent plus été des lettres. J'avais tout laissé. Je n'emportais dans ma valise neuve que des effets neufs. Mes brosses étaient enveloppées dans les journaux du jour. J'avais voulu que rien ne me rappelât ma vie de Paris, que mon attention se portât seulement à classer les mauvais souvenirs. Je revenais vers mes parents. J'allais les retrouver, moi, leur fils, leur frère. Dans une heure, je serai parmi eux. Ils n'allaient pas me reconnaître. Puis, pleurant de joie, ma mère me serrerait dans ses bras. Pas longtemps, parce qu'elle appellerait mon père pour lui annoncer la bonne nouvelle. Dans mon esprit, jusqu'à ce qu'il m'advînt de penser qu'il pouvait se faire que ce fût mon père qui se présenta d'abord à mes yeux, c'était bien ma mère qui, la première, me pardonnerait. Mais qu'importait ? Mon père m'embrasserait, me serrerait aussi dans ses bras, contre sa poitrine plus ferme, dont j'imaginais moins le contact. Oh, il y avait bien des animaux, des chiens, des chats, dans la maison le jour où j'étais parti. Mais à eux, je ne songeais pas, de peur de m'attrister. Les bêtes vivent moins longtemps que les hommes. Elles étaient peut-être mortes, parce que je ne savais pas leur âge. D'ailleurs, personne ne le savait. C'est des bêtes trouvées que ma mère, très bonne, adoptait. Je revis le petit jardin où, enfant, j'aurais aimé creuser un trou de ma hauteur. Je revis les lapins. Oh, ce ne seraient plus les mêmes, mais cela ne faisait rien, parce que, même s'ils n'étaient pas morts, je ne les eusse pas reconnus. Je revis le puits à côté duquel je me lavais pour ne pas souiller le parquet de ma chambre, pour ne pas porter l'eau. Ce qui faisait que mon père se fâchait, parce qu'il craignait que l'eau de savon, bue par la terre, ne retournât au fond du puits. Je revis les artichauts, si durs quand ils sont crus, les branches basses qui me permettaient de monter aux arbres, ma collection de timbres, dont l'un était triangulaire, le petit ruisseau qui coulait tout près de la maison, entre les orties, une allée sablée pour mes pieds nus, l'âne plus grand qui vivrait encore, mon cerf-volant venu d'un magasin, fait avec du bois blanc et non avec des baguettes vertes, ma bicyclette que je soignais de la même manière que moi, négligeant de la poussière qui la recouvrait, mais soucieux des roulements, par une prédisposition de mon esprit plus portée vers le fond que vers la forme. J'entendis le chant des coqs, celui de 8 heures du matin, plus cuivré à cause du soleil, du miroitement des ruisseaux, les battoirs des laveuses, les aboiements. Tous ces bruits étaient silencieux dans l'espace. Ils mouraient doucement, se mêlant aux vibrations de l'air chaud, sans écho inattendu, sans grossir de nouveau sur quelque toiture de zinc. Je reconnus une ferme, une grange. J'étais arrivé. Comme je me trouvais dans un wagon de tête, je crus que le train ne s'arrêterait pas. Les quais étaient déserts. L'horloge que je surprenais enfin marquait 5h10. Un vent tiède et sec me caressa le visage. Bien que je n'eusse pas prévenu mes parents, d'arriver ainsi sur un quai où personne ne m'attendait me déçut un peu. Les fenêtres de la gare étaient ouvertes. Les registres, le pot de colle liquide, les téléphones, la bascule encombrée de sacs, les montres épinglées par respect de celles qui se trouvaient dessus, tout ce matériel humide et triste dans les villes était ici souriant. Devant la porte, je le retrouvais avec quelques personnes. Un employé garda nos billets dans sa main. On aurait dit qu'entre voyageurs, nous étions entendus pour remettre au même nos billets. À cause d'une crainte inexplicable d'arriver chez mes parents, après 5 ans d'absence, avec une valise, je la posai à la consigne. J'avais encore 500 mètres à faire, sans voiture, sans train, à pied, c'est-à-dire avec la certitude d'arriver dans 10 minutes, sans accident, sans attente. Mon cœur battait. Qu'il fît chaud me réjouissait. Mon émotion n'apparaîtrait pas sous ma rougeur. Pourtant, je n'osais quitter la place où il y avait encore du monde, où je passais inaperçu pour prendre la route droite, découverte où l'on m'eût vu de loin. Le train repartit. Je venais donc d'arriver. Oh, je n'avais pas perdu de temps. Après un long voyage comme celui que je venais de faire, je pouvais bien me rafraîchir à l'auberge. À la vue des voyageurs qui s'y trouvaient, je fus réconforté. Soudain, la crainte que mon père, entrant par hasard, ne me vît, me glaça. La grandeur, la surprise de mon retour en eussent été gâtées. Devant les consommateurs, je n'aurais pu même oser l'embrasser. Il m'eût ramené à la maison en pensant que je n'avais pas été pressé de le revoir. Ma mère ne m'aurait pas reçu de la même manière. Tout eût été abîmé, bêtement. Je bus rapidement un verre d'alcool. Des bouches volaient au milieu de la salle. Elles étaient plus grosses que celles de Paris. Une porte ouverte donnait sur un jardin, sur le ciel, sur ma vie de demain. La route qui mène à la maison de mes parents est bordée de pommiers auxquels pendaient des épis laissés par les charrettes remenant des moissons. Des corbeaux d'hiver, noirs, lents et tristes, volaient au-dessus d'un arbre dans l'air où il n'y avait pas d'ombre. Je marchais vite, les sauterelles confiantes en la légèreté qui les dispensait de tout mal en tombant, sautaient du point d'appui élastique de l'herbe jusqu'au milieu de la route, où leurs longues pattes, habituées au chaume, étaient embarrassées. Une voiture, sur de hautes roues cerclées de fer, entre lesquelles, à l'endroit où l'on attache les chiens, un nuage de poussière s'élevait, me dépassa. Elle n'avait pas de numéro. Elle était libre comme l'air, comme les champs, comme la vie que j'allais mener. Un homme, tout seul dans un champ immense, fauchait du blé. J'apercevais à ma droite les maisons du village, d'où, malgré la chaleur, s'élevaient de minces fusées bleues. Elles étaient fragiles dans le ciel. Elles avaient trop de place. On sentait que le moindre souffle les disperserait, pas tout de suite, seulement après les avoir fait plier. Une borne kilométrique me rappela que l'on savait quelque part que la route existait, et je redoutais maintenant l'instant que j'avais tant désiré. Je craignais d'apercevoir au loin quelqu'un de ma famille. J'avais si chaud que chaque fois que je passais à l'ombre d'un pommier, je ne m'en rendais pas compte. Un papillon me précédait. Il m'attendait, pas seulement sur les fleurs, mais sur des pierres. Et quand je m'approchais de lui, il repartait, sans m'avoir vu ni entendu, tellement il était fragile pour se poser plus loin. Des odeurs de bois, d'herbe, d'étang, venus de tous les points, se mêlaient au-dessus de la route neutre. Sur une hauteur, entre deux arbres de la même grandeur, j'aperçus soudain la maison de mes parents. Les fenêtres étaient ouvertes. J'attendais l'émotion, la joie que j'avais escomptée. Mais rien. Elle se heurtait, cette émotion, cette joie, à 1000 pensées, à 1000 souvenirs, engendrés par la multitude d'insectes, de brins d'herbe, de grains de terre qui m'entouraient, qui me dispersaient, et qui firent que je ne suis pas plus une seconde où j'étais. Je m'arrêtais, Je regardais la maison de tous mes yeux. Hall ressemblait aux maisons que j'avais vues du train. Tout s'y passait normalement. Rien ne l'attirait plus à mon attention que les autres. Quelque chose bougea à une fenêtre. On eût dit une étoffe claire avec des remous. J'ouvris la bouche presque pour appeler. Je tendis les mains vers ce signe de vie. Oh, ce n'était pas un animal ni du linge qui séchait. Cela bougeait toujours au premier à la fenêtre de la chambre de mes parents. C'était mon père, ma mère. Un miroitement passa devant mes yeux. J'avais conscience tout à coup que ce que j'avais imaginé s'effondrait, que les phrases que j'avais préparées ne sortaient pas, et que l'on me tendrait des pièges, que je me contredirais, que j'étais aussi seul que dans la gare de Paris ce matin quand j'étais parti. Le chemin que j'avais fait ne m'avait pas rapproché. On ne pensait pas à moi. Celui qui, après 5 ans d'absence, se trouvait à quelques pas de ses parents, était encore si loin, si oublié, que tout se déroulait normalement, qu'une étoffe bougeait à une fenêtre, que la maison était blanche et les fenêtres ouvertes. De la poussière tombait sur moi. J'en jugeais l'épaisseur d'après les brins d'herbe et les branches qu'elle recouvrait. Je pris un sentier qui contournait la maison pour ne pas arriver par la grande porte. Les clairières, que ne m'y ciblait qu'à demi, ne me permettaient pas de me reconnaître à la démarche. Les ombres allongées des arbres m'accompagnaient. Et quand je passais près d'un essaim de moustiques, je regardais le sol, sous lui, sans penser. Des oiseaux chantaient, battaient les ailes, par précaution, pour s'envoler de nouveau, si les branches pliaient trop sous leur poids. Le soleil baissait. Une vie bourdonnante renaissait à la première fraîcheur du soir. De nouveaux insectes, ceux qui aiment la pluie, sortaient de la terre feuillée. Et tout en marchant, je ne quittais pas des yeux la maison. Les détails commençaient à la rendre familière. Une barrière séparait la cour du jardin potager. Je reconnus les rideaux, le banc devant une fenêtre du rez-de-chaussée, une pelle dont le manche lisse était aminci par le frottement des mains. Je vis un seau de zinc neuf qui ne me sembla pas un intrus parce qu'il n'avait pas servi sans moi. Les arbres n'avaient pas grandi. Il me restait 50 mètres à faire. Ma famille devait se trouver dans la salle à manger. Ma mère préparait le dîner, mon père lisait dans son bureau, mes sœurs cousaient. J'avançais lentement, mon pouls, mes tempes, toutes mes veines à fleur de peau battaient avec force à la même cadence. Dans une minute, j'allais entrer dans la maison. Je vis encore la scène que j'avais tant de fois imaginée, les étreintes, les larmes, le bonheur de mes parents. Oh, il se passerait comme je l'avais prévu. Il n'y avait pas de raison que je me fusse trompé, puisque jusqu'à présent, tout suivait son cours normal. Des larmes me venaient aux yeux, se confondaient sur les joues avec la sueur. Elles coulaient, pourtant plus fraîches. On allait me pardonner d'avoir pris de l'argent, d'avoir joué la comédie avant de partir, d'être resté 5 ans sans écrire. Puis, de sentir le parfum de l'herbe, il m'apparut soudain que ce que j'avais fait était beaucoup plus grave que je ne le supposais, qu'il allait falloir supplier que l'on me gardât, que l'on oubliât. Ce que j'avais imaginé s'évanouissait dans la vie bourdonnante qui m'entourait, qui, elle, continuait droite jusqu'au soir, insensible à mes calculs, aux complications de mon esprit. J'étais à présent tout près de la maison. Je n'osais encore entrer. J'avais posé la main sur la barrière qui clôture notre propriété. Un buisson dans notre jardin me dissimulait. Parce qu'il était à nous, parce qu'il semblait se faire pour complice, je repris pour un instant confiance. Je n'avais pas la force de faire un pas. Moi, qui avais cru que l'on rirait, que l'on me plaindrait, je sentis que je serais incapable de prononcer un mot. J'eus un éblouissement. Oh, de tout mon cœur maintenant, j'espérais que quelqu'un sortirait, me verrait. Alors je me serais évanoui. On m'aurait porté. Je me serais éveillé dans un lit avec, à mon chevet, les miens attentifs à tous mes gestes. Mais personne ne venait. J'entendis ma sœur qui chantait, ma mère qui parlait. Cela sans que je visse personne, bien que les fenêtres fussent ouvertes. Je lâchai une seconde la barrière pour m'éprouver, pour passer ma main sur mon front où coulait une nouvelle sueur. Je faillis tomber, je titubais. Je repris à pleine main la barrière verdie par les pluies. Je voulus appeler, et le souvenir de ce que j'avais machiné, mêlé à l'espoir que j'allais me remettre, m'en empêcha. Soudain, mon père, en manche de chemise, sortit de la maison. Je le vis nettement. Je me baissai, les pieds au travers des feuilles où à la fraîcheur grouillait tout le monde d'insectes. Il ne me perçut pas. Je n'étais plus son fils. Je me cachais, je le guettais, sans qu'il s'en doutât, comme l'eût fait un malfaiteur. Il se rendait au jardin. Il portait un panier vide et léger. Il avait vieilli. J'étais bouleversé au point de ne pas m'en attrister. Il y a 5 ans, même parmi les grandes chaleurs, il n'enlevait jamais sa veste, se tenait droit et n'allait jamais au jardin. C'était moi qui cherchais les légumes. Je voulus alors courir à lui, me jeter à ses pieds, sangloter, le supplier de me pardonner. Mais je ne bougeais pas. Il repassa devant moi lentement, se tourna parce qu'un coq chanta. Et je le vis bientôt, le dos voûté, plus triste, me semble-t-il, parce qu'il rentrait à la maison. Il était trop tard pour le suivre, pour l'arrêter. Mon père me laissait dehors. Oh, je ne pouvais plus rester ainsi, dissimulé, il fallait que j'entrasse. J'oubliais tout et, lâchant la barrière, je fis un pas puis deux. J'allais entrer. Le grand moment était arrivé. Mon père, ma mère allaient me voir, me regarder avant de me reconnaître. Je levais le loquet d'une porte de la clôture. J'étais dans le jardin. Je m'arrêtais net, les mains sans appui, me tenant droit, immobile, parce que le sol était plat. Il n'y avait personne dans la cour. Je fis encore un pas. La courbe de l'horizon, dans mes yeux troubles, me semblait tourner avec mon regard. Aucun arbre, aucun buisson ne me dissimulait. Je faisais face aux murs de la maison, aux fenêtres, à la pente inclinée du toit sur lequel, enfant, je lançais les ailes. Quelques mètres me séparaient de la porte. Je n'avais qu'à marcher droit devant moi. Sur le sol libre, que n'encombrait plus ni seau, ni brouette, ni panier. Soudain, mon regard se porta sur les murs, dont l'épaisseur m'apparut aux embrasures, sur les objets de bois, de fer, sur le banc, la pelle, sur les pierres du puits, et une seconde sur les poules qui remuaient à mes pieds. Une voix claire montait de tout cela. Je n'en comprenais pas le sens. Mes oreilles bourdonnaient. Je me raidis. Le calme, la force, la volonté m'abandonnaient un à un. Un râle sortit de ma gorge. Et à cause de l'étable proche, à cause du chien qui dormait sur le sable chaud, il n'attira pas l'attention. Je fis encore un pas, j'attendis, le corps en nage, la poitrine opprimée, et comme dans un rêve, la respiration me manquait. Il me sembla que je m'étais affaissé, que je gisais sur le sol, que mes pieds étaient aussi proches du ciel que ma tête. Je n'en pouvais plus. Oh, j'eusse continué d'avancer que je n'aurais plus vu à la porte, que je me serais jeté contre le mur. J'étais incapable d'aller plus loin. Je reculais d'un pas, sans quitter la maison des yeux. Les murs me semblèrent moins épais. Je restais encore. Ma respiration devenait régulière. Un soulagement immense coula dans mon cœur. Les poules, plus actives, picoraient. La terre à l'ombre se refroidissait lentement. Un oiseau essayait d'emporter un fétu de paille. Une paix subite était tombée sur le jardin, sur la cour, sur la maison, comme s'il avait suffi que je m'éloignasse pour qu'elle revînt. Lentement, je gagnais la route. Mes souliers poussiéreux étaient rayés par l'herbe. Je renaissais à la vie. Sans me retourner, je me dirigeais vers le village. Le soleil se couchait derrière moi. Il restait avec la maison de mes parents. Mon ombre longue me précédait. Je lui épargnais de se heurter aux arbres, aux tas de pierres. J'étais calme. Je m'efforçais de ne pas penser. Et sur la hauteur, à l'endroit où la maison m'était apparue en arrivant, je me retournais. Elle se dressait entre les deux arbres, déjà obscurcie dans le ciel bleu. Une fenêtre était fermée. Un seul carreau flamboyait. La journée s'achevait dans la même paix que la veille. Je me sentis coupable d'avoir failli la troubler. Une bouffée d'air chaud que des insectes suivaient m'enveloppa. Je regardais une dernière fois la campagne qui n'avait pas changé, qui entourait la maison que je quittais pour toujours, et je repris ma route.